Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Un petit bout d'histoire contemporaine aujourd'hui, comme il m'arrive de le faire régulièrement. L'histoire d'un président de la République jeune et moderne qui donne un grand coup de frais dans la vie politique. Emmanuel Macron ? Non, Valéry Giscard d'Estaing, qui remporte l'élection présidentielle de 1974 alors que tout le monde le donnait perdant en imposant un style très différent de ses prédécesseurs, qui dérigidifie l'exercice du pouvoir, qui ringardise les vieux croutons de l'UDR, qui conduit lui-même sa voiture, qui porte le costume le jour de son intronisation et pas la queue de pie. Voilà l'histoire de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
On a été injuste avec Giscard. Je ne vous parle pas de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il n'a pas fait, ou de ce qu'il aurait dû faire, ça c'est de la politique. Je vous parle du bonhomme, du coup de frais qu'il a apporté à la politique française. Quelque part, Giscard, c'est un enfant de 68, il a voulu changer les codes, il a voulu dérigidifier, il a senti son époque. Alors oui, il parlait avec une patate chaude dans la bouche. Oui, il a gardé d'un bout à l'autre cet air aristo, fruit de son éducation. Et oui, la mise en scène de son départ, son « au revoir » était totalement ridicule. Mais au début de l'histoire, avant de prendre en pleine poire le choc pétrolier de 74, Giscard, c'était le Macron des années 70. C'est ça que je voulais vous raconter. Alors à partir de quand est-ce qu'il y pense, le matin en se rasant, et pas que ? Depuis qu'il a réalisé que le président Pompidou, dont il est le ministre des Finances, n'en a plus pour très longtemps. En mai 1973, il est allé en Islande avec lui, en voyage officiel. Il a bien vu dans quel état était le président. Et après, ça n'a fait qu'empirer. Déplacement après déplacement, conseil des ministres après conseil des ministres. Le président était à chaque fois plus bouffi à cause des corticoïdes. Maladie de Waldenström, une forme rare de leucémie. Au dernier conseil des ministres, le 27 mars, Pompidou, pour la première fois, a parlé de sa maladie.
« Il faut que je vous parle d'un sujet que je n'ai jamais abordé. Je passe par des moments très difficiles. J'ai besoin de repos. Tout ça finira bien, enfin. On verra. »
Et à la fin du conseil des ministres, pour ne pas perdre la face, Pompidou leur a dit
« Messieurs, je vous demande aujourd'hui de ne pas attendre que je sois levé et de bien vouloir partir les premiers. »
Quatre jours plus tard, Giscard d'Estaing est en week-end dans son chalet de Courchevel. L'un de ses proches le prévient.
Monsieur le ministre, il faut que vous sachiez que l'état du président est en train de se dégrader. Oui, considérablement. Il est en train de mourir, monsieur le ministre. Voilà, je voulais vous le faire savoir.
Giscard est tenté de rentrer à Paris tout de suite. Et puis il se dit, ne pas se précipiter. S'il se précipite, ça va alimenter la rumeur. Il a prévu de rentrer demain, il rentrera demain. Le lendemain, il est à son bureau au ministère des Finances, qui à l'époque est aux Tuileries. Et il fait venir quelques proches. Je vais vous donner quelques noms. Ce sont comme des Madeleines de Proust des années 70. Michel Poniatowski, Michel Dornano, Jean-Pierre Soisson, Roger Chineau, Jacques Dominati, ils sont là autour de lui.
Il lui reste combien de temps ? Disons que c'est une question d'heure.
C'est sûr ?
Oui.
Et comme s'il se méfiait des micros dans son propre bureau, Giscard les entraîne dans ses appartements.
Bon, messieurs, il va y avoir une élection anticipée. Je voulais vous annoncer que je serai candidat.
Qu'en pensent les autres en face ? Eh bien, ils sont sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelles sont les chances de Giscard face à Chaban-Delmas de l'UDR, le parti gaulliste ? Elles sont nulles, absolument nulles. Depuis 1958, la France est gaulliste, il y a eu De Gaulle, il y a eu Pompidou. C'est le tour de Chaban-Delmas. Sans oublier qu'en 69, Giscard a appelé à voter non au référendum sur la rénovation du Sénat et la création des régions. Il a planté De Gaulle, qui a perdu le référendum et qui a dû démissionner. Les gaullistes ne lui ont pas pardonné. Alors rassemblez la droite, Giscard, vous plaisantez. Il va se ramasser. Le soir même, les Français sont en train de regarder les dossiers de l'écran à la télé.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou.
Valéry Giscard d'Estaing a 48 ans. Dans la classe politique des années 70, il passe pour un jeune homme. Il lui reste 5 semaines avant le premier tour. On enterre le président Pompidou le 6 avril au matin à Notre-Dame. Et l'après-midi même, alors qu'à l'Assemblée, on est en train de prononcer l'éloge funèbre du président, Chaban Delmas annonce sa candidature par une dépêche de l'AFP qui tombe à 16h09. Dans la foulée, Giscard lui envoie un petit tacle bien senti. Aussi longtemps que ne sera pas achevé l'hommage public, national et international rendu à la mémoire de Pompidou, je m'abstiendrai de tout commentaire. Le lendemain, Giscard s'envole pour Chamalières, dans le Massif central. Et c'est pendant le vol qu'il rédige le texte de sa candidature. Seul. Le soir, il dort chez lui à Chanonat. Et le lendemain matin, 8 avril, il prend le volant de sa Renault 6, direction Chamalières. C'est sa ville depuis 7 ans. C'est dans sa mairie qu'il fait son annonce, les mains bien croisées devant lui.
Il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. J'ai pensé, je pense encore, que ceux qui s'inspirent de sa mémoire devaient s'associer au deuil du peuple français avant de se préoccuper de sa succession. Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française.
Pour la suite, rien n'est prévu. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de programme, rien. Mais c'est une élection anticipée. Alors la règle est la même pour tous, il faut improviser. C'est dans l'avion du retour que le reporter Raymond Depardon convainc Giscard de se laisser filmer pendant toute sa campagne. Autour d'une coupe de champagne, avec un argument très séduisant. Monsieur, je crois qu'il faut faire un film de votre campagne. Vous savez, je pense au film qui a été réalisé pendant la campagne du président Kennedy aux États-Unis. C'est ça qu'il faut faire. La seule évocation du nom de Kennedy suffit à convaincre Giscard. Kennedy, c'est son modèle. Il l'a rencontré en 1962 et il dira plus tard, c'est le plus beau souvenir de ma vie. C'est son modèle. On est le 8 avril. Le premier tour a lieu dans moins d'un mois. Le jour même, François Mitterrand sort lui aussi du bois. Il sera le candidat de la gauche, de toute la gauche, y compris les communistes et les radicaux, avec lesquels il a signé un programme commun. Mitterrand a été 11 fois ministre et 3 fois secrétaire d'État sous la 4e. Il était déjà candidat en 1965. Il a de l'expérience. Ça peut être son tour.
Sans vous, rien ne serait possible. Je veux dire sans vous, expression de dizaines et de dizaines de milliers de militants, expression de millions de Français qui veulent que le socialisme porte témoignage dans cette bataille. Vous voulez que je sois candidat, eh bien, je le serai.
Le lendemain, le 9 avril, le Premier ministre sortant, Pierre Messmer, lance un ballon d'essai. Il en serait bien, lui aussi. Mais
devant la situation créée par plusieurs candidatures de la majorité de Georges Pompidou, en raison des risques qu'une telle division fait courir à la France, je suis résolu à me présenter au suffrage des Français si ces candidats se retirent. Je le leur demande.
Et là, Giscard la joue fin stratège. Il annonce qu'il se retire si Chaban Delmas en fait autant. Et comme Chaban n'a aucune intention de se retirer, Mesmer est obligé de remballer sa candidature. Le jeu s'éclaircit. Dans le prochain chapitre, entrée en scène d'un certain Jacques Chirac, jeune ministre de l'Intérieur. C'est bien connu, quand on veut grandir, il faut tuer le père. Et c'est là qu'entre en piste un jeune loup du gaullisme, un certain Jacques Chirac, ministre de l'Intérieur du gouvernement sortant. Chirac piaffe d'impatience et il n'est pas dans le cercle des vieux barbons qui entourent Chaban. Si Chaban gagne la présidentielle, il n'a pas grand-chose à attendre, les vieux croutons du gaullisme ne lui feront pas une place au soleil. En revanche, il connaît bien Giscard. Il a été son secrétaire d'État au ministère de l'Économie et des Finances pendant 2 ans. Ils se sont vus juste avant la déclaration de candidature. Ils ont noué un pacte. Chirac va lui apporter une partie des gens de l'UDR. Le 13 avril, Chirac publie ce qu'on a appelé l'appel des 43. 4 ministres et 39 parlementaires de la majorité sortante qui appellent non pas directement à voter pour Giscard. Non, c'est plus fourbe que ça. Ils appellent à une seule candidature à droite. Et dans les faits, ça revient à plomber Chaban Delmas. À part ça, je vous l'ai dit, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de plan. Giscard décide d'en faire un atout. Il en profite pour rompre avec les campagnes précédentes où tout donnait l'impression d'être préparé, calculé, il n'y avait rien de naturel. L'installation de son quartier général de campagne au 41 rue de la Bienfaisance dans le 8e est une première illustration du style Giscard. Il met sa fille, Valériane, et sa femme, Anémone, au turbin. On les voit à la télé en train d'aménager les locaux. Sa communication d'ailleurs va beaucoup jouer sur sa famille. Un dimanche d'avril, un photographe de Paris Match le prend en photo avec sa fille Jacinthe dans les jardins des Tuileries. On ne voit pas le visage de la jeune fille, elle regarde son père. C'est tout.
Je pense qu'on devrait utiliser cette photo pour une affiche. Ça va toucher les familles et les jeunes. Ça ne peut être que bénéfique, non?
Il obtient ce qu'il veut. La photo est flanquée d'un slogan, la paix et la sécurité. Il y aura une deuxième affiche plus classique, genre photomaton, barrée du slogan « Un vrai président ». Mais c'est la première affiche qui va marquer les esprits. Et puis pour ces meetings, Giscard fait un choix audacieux. Il choisit comme hymne un chant révolutionnaire qui avait déjà fait la joie de Robespierre. Le chant du départ.
C'est moi qui l'ai choisi, c'est un chant superbe, c'est un chant révolutionnaire. Et c'est le chant que je chantais quand j'étais dans la première armée, parce que nous chantions ce chant. Et je vous signale qu'il y a un passage qui est le bon, qui est la victoire en chantant, nous ouvre la barrière.
En chantant, nous ouvre la barrière, la liberté de nos pas, du nord au midi, la
Giscard a compris quelque chose. La France est dirigée depuis 1954 par les gaullistes. Mai 68 est passé par là. Les Français veulent du changement. Mais pas un bouleversement. Alors il se choisit un slogan. Le changement, mais sans risque. Le changement sans faire peur. Giscard annonce bien 2 ou 3 mesures. Il légalisera l'avortement et il portera la majorité de 21 à 18 ou 19 ans. Mais pour le reste, pour l'économie, ce sera la continuité. Ça rassure. Mais c'est le style qui va faire la différence. Dans ses déplacements, Végeux casse les codes. De Gaulle et Pompidou étaient inaccessibles. Lui, au contraire, joue sur la proximité. Alors avant et après les meetings, il écarte les conseillers et il se laisse embarquer par la foule. Il signe des autographes et parfois, il conduit lui-même sa voiture, sa R6, une voiture sans chichi. Et c'est comme ça qu'il prend l'avantage sur Chaban, qui passe pour le candidat de la vieille garde. coup, il attire les vedettes. Johnny Hallyday, par exemple, vient un jour à son quartier général parisien avec Daniel Gilbert et Chantal Goya pour offrir du muguet à Anémone. Et un t-shirt est édité, barré du slogan « Giscard à la barre » et Brigitte Bardot s'affiche avec. Le soir du premier tour, Giscard est de retour à Chamalières, là où tout a commencé.
4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, il est 20h, Giscard l'emporte pour la seconde place devant Jacques Chaban-Delmas. Le classement, premier François Mitterrand.
Premier François Mitterrand, 43,5. Deuxième, Valéry Giscard d'Estaing, 32,5.
Chaban est sorti avec 13% des voix seulement. Mais pas d'explosion de joie chez les Giscardiens au soir du premier tour. Hein. Mitterrand est devant, et bien devant. Il peut gagner.
Avec près de 44% des suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin, j'en suis exactement au point où se sont trouvés avant moi le général de Gaulle en 1965 et M. Pompidou en 1969. Qui furent, comme on le sait, élu au deuxième tour. Les conditions du succès sont d'ores et déjà réunies.
Le lendemain du premier tour, Giscard retrouve son carré de fidèles dans son bureau du ministère des Finances. Et la caméra de Depardon enregistre un débat stratégique passionnant.
C'est une élection qui est pratiquement gagnée si on ne fait rien. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre. Parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans l'autre. Donc il y a au fond une technique d'abord que serait à ne rien faire de beaux discours, etc. À laisser le courant passer, ce qui est rassurant, il est très convenable, il est gentil, il parle bien, voilà. Première solution. Et faire une campagne assez de généralité, généreuse et pas trop engageante. Et au fond, on est élu dans ce cas-là. Alors, il y a à mon avis une erreur mortelle, c'est de laisser peindre ma campagne aux couleurs de l'UDR.
Pour la première fois, un débat va être organisé à la télé entre les deux tours. Giscard face à Mitterrand. Pour Valéry Giscard d'Estaing, vous l'avez compris, c'est risqué. C'est très risqué. Le débat a lieu le 10 mai 1974 au studio 101 de la Maison de la Radio dans un décor marronnasse, arbitré par Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel. Par tirage au sort, Giscard a obtenu le droit de commencer, Mitterrand conclura. Et ce débat est marqué par une audace de Giscard.
D'abord, je veux vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres.
Par cette formule, Giscard marque un point. Et dans la foulée, il pousse son avantage.
Si je suis élu, je proposerai au plus exactement, le gouvernement proposera à l'Assemblée nationale le droit de vote à 19 ans. Et les Français auront un gouvernement composé d'hommes et de femmes jeunes et en majorité nouveaux pour conduire avec hardiesse le changement et pour préparer la France des années 1980.
À la veille du deuxième tour, Giscard et Mitterrand sont au coude à coude dans les sondages. Le 17 mai, dernier meeting de Giscard à la porte de Versailles, devant 100 000 personnes. Et c'est Charles Aznavour qui entonne l'hymne de la campagne. Mais, en fin d'après-midi, Giscard attend les résultats seul, dans son bureau du ministère des Finances, au Louvre. La scène est immortalisée par la caméra de Depardon. Giscard a sorti un fauteuil sur le balcon de son bureau. Il a une petite radio sur les genoux. Il écoute Europe 1. La télévision est allumée, le chien est là, couché, un tourne-disque joue du malheur. annonce une participation record de 87%. C'est Jacques Chirac qui lui annonce par un coup de fil les premières estimations qui le donnent gagnant. Giscard s'installe devant la télé. Il s'agace du fait que Michel Dornano soit sur le plateau. Il lui avait demandé de ne pas y aller. Et puis, il est 20h.
Ont obtenu, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, 13 165 000 suffrages, soit 50,71%. Monsieur François Mitterrand, 12 791 000, soit 49,28%.
Les estimations sont trop serrées, on ne peut pas encore se réjouir. Sur le plateau, Dornano enfile les perles et Giscard le trouve assommant et pénible. Alors il change de chaîne et pendant quelques instants, il regarde un film. Et puis il s'en va, il est toujours tout seul. Au volant de sa voiture, une 504, il rejoint son quartier général. À l'arrivée, les gens passent leurs mains par la portière. Pour le toucher, pour le féliciter, il n'a aucune protection. La portière que finalement, il n'arrive pas à ouvrir. Alors il sort par le côté droit. Valéry Giscard d'Estaing est investi le 27 mai. Il arrive à l'Élysée à pied, en costume de ville. Et ça, c'est une première. Tous ses prédécesseurs portaient la jaquette à queue de pie.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.